Bibin, le magazine qui explore, qui voyage, qui découvre. Suivez nos micros sur les chemins de traverse.
Aujourd'hui, je suis allée voir un personnage qui s'appelle Gérard Duchemin.
Mais ça, c'était avant. Avant qu'on me retire mes cordes vocales, c'est à cet endroit qu'un malin petit crabe était en train de faire son lit.
T'as une voix un peu de canard, si je peux me permettre.
J'ai une voix de canard, effectivement. Et je ne chante plus. C'est pour ça que je vais raconter toutes mes histoires avec cette voix de canard qui, j'espère, ne vous troublera pas trop.
Dans le 4e épisode de la saga avec Gégé Duchemin, nous en apprenons un peu plus sur les anecdotes des tournées et des stars.
Alors avec mon retour en pays nantais, je signe un nouveau contrat avec la Maison de la Culture de Loire-Atlantique qui organise 2 tournées par an, au printemps et en automne, avec des artistes aussi différents que Guy Benoz, Yves Dutheil, un homme charmant, qui se souvient des prénoms de chaque technicien au bout de quelques heures. Les ballets de Pologne, les chœurs de l'armée rouge à sillonner le département.
Tu n'as pas une anecdote à nous raconter à propos des chœurs de l'armée rouge?
Ah si, bien sûr. Quand on les croise avec le bus, on dirait des petits vieux en excursion. Mais quand on les voit avec l'uniforme lors du spectacle, c'est tout autre chose. Pendant 3 semaines, je suis aux petits soins pour eux. Mais ni vin à table, ni alcool. J'ai eu des instructions. Et le régisseur, chauffeur du bus, surveille. Au bout de quelques jours, les chanteurs me connaissent mieux et j'ai tissé quelques liens avec plusieurs d'entre eux qui parlent un peu français et me font comprendre que la vie en tournée manque de charme et qu'ils s'ennuient un peu.
Ils sont venus de très très loin pour chanter, mais pour une fois, pas d'Amérique, leur pays c'est plutôt la Russie. Sans s'arrêter, ils ont franchi des montagnes dans l'autocar qui vient d'Ukraine et les emmène chanter en Bretagne. J'aurais jamais pensé qu'un jour une histoire d'homme sur mon parcours, je nourrirais un cœur en uniforme. Je leur ai donné ce qu'ils aimaient bien et puis du vin le soir pour chanter. Ce fut une joie pour moi de les accompagner. Ces grands gaillards qui aimaient rire et partager des moments d'amitié. Le dernier soir, ils sont venus me chercher. Bien encadré, soulevé de terre, jeté sur scène par des bras militaires. blessé au milieu d'eux, avec la casquette sur les yeux. Impressionné, je me suis laissé porter. Ça vibrait fort avec les basses, toutes nos voix remplissaient l'espace. Ça m'a aidé pour chanter Kalinka. Le dernier soir, ils sont venus me chercher, m'ont porté sur la scène pour chanter avec eux. Grand moment d'amitié.
Comment fais-tu pour les distraire ?
Alors un soir, je transvase une bouteille de Bordeaux dans une bouteille de Coca, qu'ils emmènent discrètement à l'hôtel. Mais les nouvelles vont vite et le lendemain, il faut que je recommence cette fois dans plusieurs bouteilles. Les fins de soirée à l'hôtel deviennent un peu plus animées, mais l'œil de Moscou commence à me regarder de travers. Le dernier soir de la tournée, je pense, pour me remercier, il m'attrape par surprise et je me retrouve sur scène, une casquette sur la tête, à chanter Kalinka avec eux. Sûrement pour me remercier de leur avoir apporté un peu de gaieté en bouteille. Après, je me retrouve pour 4 semaines aux répétitions d'Hichelin. Encore lui, ouais, au Palais Expo de Montreuil, pour préparer le Grand Rex où je retrouve Pierrot, toujours guitariste du Grand Jacques. Là, j'ai de moins bons souvenirs. Hichelin a des sautes d'humeur et parfois, la répétition s'arrête parce que les musiciens supportent mal son caractère. Même si Polo, son frère et compagnon de toujours, essaye d'arrondir les angles.
Un bipolaire ?
Un peu, on peut dire ça, ouais. Un jour, Jacques arrive en famille avec un bébé qui ne marche pas mais commence à crapahuter à 4 pattes entre les tables et mes fourneaux. Il me demande de veiller à ce que rien ne soit dangereux pour Isia, car c'est bien d'elle qu'il s'agit, c'est Isia. Alors je lui explique le plus gentiment du monde que je ne suis pas là pour surveiller les petits, mais pour faire la cuisine.
Tu n'es pas une nounou ?
Ben non, bien sûr. Alors au Grand Rex, c'est encore pire. On est au 5e sous-sol, dans les entrailles de Paris, sur les grands boulevards. Tout est compliqué, et ce dédale de couloir pour arriver à une cuisine minuscule et sans fenêtre me fait perdre beaucoup de temps en manutention. Aucune grande surface dans Paris. Le plus près, c'est Leclerc, en banlieue du côté d'Ivry, et avec la circulation, c'est très compliqué. J'ai tant de mal à finir ce contrat que je ne ferai pas la tournée. Tant pis, je suis attendu ailleurs.
Dis donc, tu passes des cœurs de l'Armée Rouge à Hichelin sans transition, ça doit faire un choc, non ?
Ah ça c'est sûr, oui. Et de Hichelin à Yves Duteil. La tournée Yves Duteil est beaucoup plus tranquille. Monsieur Duteil, qui au bout de quelques heures a le prénom de chaque technicien en mémoire, est un modèle de discrétion et de courtoisie.
Waouh !
Ah ouais, un super mec, vraiment. Ouais. Un autre exemple de la variété de mes interventions... Aux Eurockéennes à Belfort, dans la même soirée, je reçois Lou Reed et James Brown et Bob Dylan, avec chacun des exigences particulières pour la centaine de personnes qui les accompagnent. Dylan met son nez partout en toute indiscrétion. Je le retrouve à 2 du mat à rôder dans ma cuisine, mystérieux et silencieux.
Thank you.
peut-être acquérir de nouveaux secteurs pour varier les plaisirs et surtout te diversifier?
Ah oui, alors le catering cinéma, ils appellent ça la cantine. C'est vraiment un nouveau secteur. Il y a des nouveaux codes à connaître sous peine de passer pour un débutant et ne pas réussir à gagner la confiance des techniciens très exigeants. C'est vraiment particulier. Les plus anciens ont encore en mémoire la période la plus faste du cinéma, du temps où l'argent coulait à flot et surtout en liquide, et où rien n'était trop beau pour ces messieurs-dames. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les comédiens sont beaucoup moins exigeants.
Est-ce que tu te souviens d'un film en particulier ?
Oui, je me souviens d'un film qui se passait en partie en milieu hospitalier. La production aurait pu envisager une chambre d'hôpital normale, mais ils ont choisi l'hôpital psychiatrique Saint-Jacques, à Nantes. Et nous voilà installés pour une dizaine de jours dans la cour de cet établissement où se promènent en permanence les pensionnaires les moins malades et les plus calmes de cette population qu'on n'est pas habitué du tout à côtoyer. Un responsable de la sécurité me dit préférer avoir affaire à des durs de durs plutôt qu'à ce genre de personnes imprévisibles. La directrice de cet hôpital me conseille de ramasser les ustensiles dangereux et la vaisselle tous les soirs. La nuit, la cuisine est bien gardée par un vigile, mais on ne sait jamais.
Est-ce qu'il y a d'autres secteurs où tu exerces ton activité ?
Oui, je m'occupe aussi de la restauration sur quelques événements nantais, comme l'inauguration du tram et la grande parade de Royal Deluxe, compagnie nantaise de théâtre de rue.
Mais ça nécessite beaucoup de matériel, tout ça ?
Oui, j'en ai parlé un peu dans l'épisode précédent. Un projet me tient à cœur depuis quelque temps déjà, car il faut bien le dire, on est souvent installé dans des endroits improbables que les services d'hygiène ne contrôlent pas, vu qu'ils ne sont pas répertoriés comme lieu de restauration, mais de spectacle. Alors je rêve d'une cuisine équipée de tout le matériel professionnel indispensable, four à vapeur, piano de cuisine et lave-vaisselle, avec une douche pour pouvoir se rafraîchir sans retourner à l'hôtel.
Il n'y aurait pas une façon plus pratique pour t'installer ?
Oui, mon rêve va se réaliser. Une remorque de 8 mètres de long, attelée à un puissant fourgon. Ça va bien me changer la vie, à commencer par mes premières francopholies à La Rochelle, où la cuisine mobile est installée tout près de la plage. C'est sa première sortie et vraiment une réussite. Elle s'ouvre sur les deux côtés, ce qui améliore considérablement les conditions de travail. Et un gros câble d'alimentation. Voilà, un gros câble d'alimentation.
Refait. Elle s'ouvre sur...
Elle s'ouvre sur les deux côtés, ce qui améliore considérablement les conditions de travail. Et un gros câble d'alimentation électrique remplace tous les petits rallonges et les raccords qui couraient partout.
Raconte-moi de ces francopholies.
Sur les francopholies, j'emploie une vingtaine de personnes pour 4 à 500 repas, midi et soir, pendant une quinzaine de jours. Installation des structures et des montages compris. Après les franco, mon enthousiasme déborde pour cette ville et je prends la décision immédiate de m'installer à La Rochelle.
Alors une fois installé à La Rochelle, qu'est-ce que tu fais ?
Au printemps 94, le Fort Boyard me demande pour le jeu télévisé.
Quel est ton quotidien ?
Alors, 120 personnes à manger sur le fort pendant 3 mois, du 15 avril au 14 juillet. On est tributaire de la marée, et parfois il n'est pas plus de 7 heures du mat, quand on embarque sur le Zodiac 400 chevaux qui nous est réservé. On est une quinzaine, debout sur le bateau, à se tenir chacun à la corde qui nous empêche de tomber. Et le pilote met à fond les gaz. En 10 minutes, on est sur le fort.
Et les équipes, elles arrivent quand ?
Les équipes concurrentes et leur staff arrivent un peu plus tard sur un gros bateau qui met une bonne heure pour arriver. Et un brunch très copieux les attend, ce qui est normal vu l'énergie qui leur est demandée jusqu'au repas de midi. Après, ils continuent à tourner et nous on fait la plonge, le nettoyage et le rangement. Puis on rentre chez nous vers 17h. Ce qu'on voit à la télé ne représente qu'une dizaine de jours de tournage pour l'équipe française. Mais d'autres pays se succèdent et enregistrent des émissions qui seront diffusées sur leur chaîne nationale.
Tu cuisines aussi pour les autres pays ?
Oui, je cuisine pour tout le monde parce que seul un présentateur issu du pays visiteur est nécessaire. Tous les autres rôles, comme la boule et les nains, sont muets. Ainsi, pas besoin de doublage. Parfois, la météo nous joue des tours. Et quand la mer est trop instable, c'est en hélico qu'on vient travailler.
Prière d'essuyer vos pieds. Avant de pénétrer. Dans le fort boyard. Ils sont 120 personnes. Et pas tous très gentils. Ça bosse fort sur le fort. C'est moi qui les nourris. Mais quand ça crie, chacun se cache où il peut. Se cherche un trou de souris. Le père Foura a 28 ans. Il fait bien son âge. Il n'est pas sourd, il n'est pas muet, il dit des adages. C'est pas comme Passepartout et Passe-temps. Eux, ils courent toujours. Ils parlent jamais, jamais. Prière. Prière d'essuyer vos pieds. Avant de pénétrer dans le fort boyard. Tout le monde connaît la boule au physique de bagnard qui serait trop bien nourri. Elle voudrait s'échapper du fort boyard. Finir sa cavale dans une charcuterie. Et puis voilà les marins et Momo l'électro. Un petit peu énervé juste après l'apéro. Il regarde toujours en l'air en sortant de la cuisine, content d'apercevoir la culotte de Sandrine et Marie-France. Prière. Prière d'essuyer vos pieds. Avant de pénétrer.
Alors, Gégé, est-ce que tu peux nous parler encore des tournages sur le fort ?
Oui, bien sûr, pour des raisons de promiscuité, on va dire. La salle où mangent nos 120 personnes se trouve à l'étage au-dessus de la cuisine, ce qui complique beaucoup les choses quand il s'agit de porter tout ce dont on a besoin, ainsi que les plats à la salle à manger. Pour ça, on a un moniteur télé en cuisine qui nous retransmet en direct où ils en sont du tournage. Et à partir des images, on décide si on peut sortir ou pas. Trouver le bon moment est un vrai casse-tête, car c'est très petit le fort, et les caméras ne sont jamais très loin. Alors parfois, on n'est pas dans le bon timing, et on entend « T'es dans le champ, connard !» C'est le genre d'amabilité qu'on entend hurler par le régisseur, dans le mégaphone qui résonne dans toute la cour. Et ça veut dire qu'ils doivent recommencer la prise, parce qu'au beau milieu du jeu, passe un serveur en tablier avec un plateau. La deuxième difficulté, c'est qu'à chaque fois qu'on monte des plats au premier étage, en sortant de la cuisine, on est obligé de passer devant la cage au tigre. Et les odeurs de bouffe, ça les énerve. Alors on se dépêche avant qu'une de ces bestioles ne se rue sur les barreaux de la cage. Et ouais, c'est sportif le fort.
Dis-moi Gégé, pourquoi à la fin de la chanson on entend une voix féminine qui répète à l'infini « Vous allez bien finir par nous empoisonner ?»
Ah oui, alors vous allez bien finir par nous empoisonner. C'est ce que me répétait la directrice de production à chaque fois que je la croisais dans un couloir, car elle était souvent malade. Son médecin lui avait même ordonné, disait-elle, le mixage de sa nourriture, ce qui nous compliquait aussi la vie. Et puis on s'est finalement rendu compte qu'elle se sentait mal uniquement les lendemains de soirée un peu trop arrosées à leur hôtel. À parler du Fort Boyard, je reviens un peu sur mon attirance pour La Rochelle, car je m'aperçois que mes succès professionnels dans cette région ont créé pas mal de jalousie parmi les traiteurs locaux, parce qu'aucun d'entre eux n'a signé avant moi pour le Fort ou les Francopholies.
Et pourquoi ?
Parce que ce n'est pas à La Rochelle qu'on signe les contrats, c'est dans les bureaux de production parisiens où j'ai la chance maintenant d'être reconnu. Mais pour les Rochelais, je suis l'intrus qui vient d'ailleurs. Et à l'été 94, je fabrique 1800 repas par jour sur trois endroits différents. Les Franco, le Fort Boyard et une grosse association qui m'en a commandé 300 tous les midis au port des Minimes. C'est juste en face les Franco par la mer et j'y vais en Zodiac pour gagner du temps. Et pour finir, je m'occupe du repas festif qui clôture les trois jours du rallye d'automne. Événement typiquement rochelais, où sont invités tous les responsables des grosses entreprises du coin. 1000 repas d'un coup, 125 tables de 8, c'est pas rien. Ça fait 125 salières si t'as oublié de mettre du sel.
Waouh !
Évidemment, ça fait des envieux parmi les pros du coin, qui m'ont savonné la planche, comme on dit, et j'en ai fait une chanson.
Qu'on va écouter.
Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les embrouillés, les emmerdes aussi. C'est une bien triste histoire, sale tour à La Rochelle, où je me suis pas fait que des amis. Y en a un qui m'a dit, c'est pour toi. Ce business te tend les plus 1000 personnes à manger tous en même temps. C'est prenant. Chansons satisfaits, le président fait son discours. Revient vers la cuisine, me dit tout est parfait. Des mots avec des petites fleurs autour.
Les petites fleurs se fanent.
Y en a un qui m'a dit
tout comme les feuilles mortes.
Mais fille,
je te devine qui ricane caché derrière la porte.
Ce business n'est pas fait.
On arrive au dessert
pour toi.
Galette charentaise salée comme un jambon.
Le banquet du rallye d'automne, plus une personne. Terrain était miné, un sacré sabotage. Quelqu'un qui s'est vengé, mais moi j'avais hâte. Le banquet du rallye d'automne,
vous avez entendu le quatrième épisode de la saga GG Duchemann, ancien cuisinier du spectacle et de l'événementiel. Vous pouvez retrouver ces épisodes sur transistor.bzh. Ribine, le magazine qui explore, qui voyage, qui découvre. Suivez nos micros sur les chemins de traverse.